Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Mardi 21 avril, il est 7h30, le journal est présenté par Samia Stambouli. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. La guerre des tranchées lancée au Tawera avec en toile de fond les sénatoriales. Première cible, Lana Tetuanui. Une lettre ouverte l'accusant d'emploi fictif a été déposée à la DSP et relayée depuis dans les médias. La candidate et représentante s'en expliquera dans ce journal. Recrudescence des vols de deux roues à Papeete et Pirée. Il s'agirait d'une même équipe qui utilise, selon la DSP, un mode opératoire bien spécifique. Elle en appelle donc à la plus grande vigilance. C'est le grand soir pour l'équipe de futsal du Fénois. Les Aïtonouis disputeront un match amical face à la France. Une rencontre officiellement sans enjeu, mais qui fait figure de test à l'approche des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde de l'an prochain.
Et on commence avec cette lettre qui agite la campagne des sénatoriales.
Campagne oblige, les coups bas pleuvent au sein d'un Tawera divisé. La semaine dernière, une lettre ouverte dénonçant un emploi fictif de Cyril Tetuanui au cabinet de son épouse à l'Assemblée a été déposée à la DSP et relayée dans les médias. Ce courrier indique qu'il a été recruté comme collaborateur de Lana Tetuanui à l'Assemblée depuis juillet 2013. Une embauche à l'époque ratifiée par le président de l'Assemblée, Édouard Fritsch. Il n'en fallait pas plus en pleine période de campagne pour que la lettre ouverte dénonce l'absence de Cyril Tetuanui sur ses horaires de travail à l'Assemblée et parle d'emploi fictif. Radio 1 a eu confirmation qu'il a été recruté donc en 2013 par l'Assemblée sur un emploi de 30 heures par semaine. Contacté par Radio 1, Lana Tetuanui affirme que l'embauche de son mari a été faite dans les règles. À quelques jours des élections, la candidate parle d'un complot politique mené en sous-main par Gaston Flosse.
Je n'ai pas réagi sur le torchon de Christine Boone. Je n'ai reçu aucun courrier. Pourquoi on cible mon mari? Ce n'est pas un emploi fictif. Il m'a toujours accompagné. C'est autorisé par le règlement de l'Assemblée. Tout ça est manipulé par M. Floss. En tous les cas, en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon époux, nous avons respecté les règles qui régissent à nos droits d'élus. Nous pouvons recruter des membres de notre famille en respectant la limite prévue par la loi. Il n'y a pas de fictivité. Il est affecté pour moi aussi bien dans mes rôles d'élu, dans ma circonscription. Alors là, il va falloir que vous allez cavaler dans tous les issues, le vent partout où je suis passé. Hein. Par contre, ça va être plus brûlant après le 3 mai. Là, je vais dévoiler les vrais emplois fictifs de Floss. Là, ça va faire mal, je vous assure. Moi, je suis sereine, je n'ai rien à nous reprocher. Nous avons fait les choses dans les règles. Mais en tous les cas, c'est Floss qui est derrière tout ça et c'est ciblé là. Mais je lui renvoie que celui qui sème le vent, il écartera la tempête là.
Elle était interrogée par Cédric Valex.
Justice à présent avec cette condamnation à 2 ans ferme pour avoir poignardé son concubin.
Une jeune femme de 34 ans a été jugée hier pour avoir poignardé son tanné lors d'une dispute. C'était le mois dernier à Paya. À l'époque, elle était rentrée tard et ivre à son domicile. Habituée aux excès de violence de sa compagne, son tanné avait alors décidé de partir passer la nuit chez ses parents. Une décision insupportable pour la jeune femme qui s'était saisie d'un couteau et avait poignardé son compagnon au-dessus de la poitrine. L'homme a eu le poumon gauche perforé et a écopé de 15 jours d'ITT, un acte expliqué par un état d'énervement. Déjà condamnée pour vol avec violence, vol en réunion et violence volontaire sur mineur, la jeune trentenaire est une habituée du tribunal. Mais son compagnon n'a pas voulu se constituer partie civile au procès, justifiant qu'il l'aimait toujours. Des mots qui n'ont pas ému le procureur qui a dépeint une personnalité, je cite, « inquiétante » et pour qui ce fait divers est passé à 2 doigts du meurtre. Les juges ont d'ailleurs suivi ces réquisitions et ont prononcé une peine de 3 ans de prison, dont 2 ans ferme. La jeune femme a été immédiatement transportée à Noutania.
L'affaire Haddad Floss repart à l'instruction.
Le parquet général de Papeete a confirmé lundi à Radio 1 qu'il ne formerait pas de pourvoi en cassation dans cette affaire. La semaine dernière, la cour d'appel a confirmé sa décision de juin dernier dans laquelle elle avait prononcé l'annulation de l'ordonnance de renvoi du dossier et de renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction. Concrètement, les juges ont relevé que le principal prévenu du dossier, à savoir l'ancien président Gaston Floss, avait été renvoyé en correctionnel pour trafic d'influence dans l'attribution des marchés à la CEP, à TNTV, à RT Kinoui et au groupe de l'homme d'affaires Hubert Haddad. Or, dans ce dossier, Gaston Floss n'a été interrogé que sur les dossiers du groupe de l'homme d'affaires. Le juge d'instruction devra donc repréciser les faits qui sont reprochés au président du Tawera et aux autres prévenus dans son ordonnance de renvoi. Au besoin, il pourra même reconvoquer les mises en cause pour les entendre à nouveau. L'affaire Haddad Floss a donc encore quelques années devant elle.
Et on aborde maintenant la recrudescence des vols de scooters dans les parkings collectifs.
Ce week-end, deux scooters ont été volés dans des parkings d'immeubles collectifs à Pirée, un phénomène en augmentation ces dernières semaines. Déjà, depuis le début de l'année, la DSP a enregistré une hausse du nombre des vols de deux roues à Papeete et Pirée. Pour le commandant Anus, ces vols pourraient être l'œuvre d'une équipe qui sévit avec le même mode opératoire. Il en appelle donc à la vigilance.
En règle générale, le ou les auteurs profitent de l'entrée dans le parking des résidents de l'immeuble pour s'y introduire subrepticement et ensuite dérober un scooter. Il est donc important d'attirer l'attention des propriétaires de scooters sur la nécessité de bien sécuriser leurs engins, non seulement sur la voie publique, mais également lorsqu'ils le stockent dans un parking qu'on peut supposer plus sécurisé, un parking privé. N'hésitez pas à cadenasser vos engins, même si vous pensez que, puisque votre résidence est protégée par un portail ou un digicode, il est plus en sécurité. Pour l'instant, nous avons vraisemblablement une équipe qui est spécialisée dans ce domaine-là et nous espérons pouvoir la mettre hors d'état de nuire assez rapidement.
Il était au micro d'Antoine Samoyau.
La Polynésie s'apprête à célébrer l'Anzac Day.
L'Anzac, c'est l'acronyme anglais des corps armés australiens et néo-zélandais. L'Anzac Day, c'est donc une journée commémorative célébrée dans le Pacifique. Elle rend hommage à ces soldats tombés le 25 avril 1915 lors de la bataille de Gallipolo en Turquie. Une bataille qui les opposa à l'armée ottomane, alliée de l'Empire austro-hongrois et de l'Allemagne. En Polynésie, un soldat australien et un soldat néo-zélandais sont d'ailleurs enterrés au cimetière de l'Uranie. Et pour le 100e anniversaire de cette bataille, Glenda Price, consul général adjointe d'Australie dans les territoires français du Pacifique, a rejoint Tahiti. Elle est revenue au micro de Delphine Barrès sur le caractère particulier de cette journée.
L'Anzac Day, comme nous disons en anglais, il s'agit de trois choses. Tout d'abord, c'est l'anniversaire du début de la campagne de Gallipoli. En second lieu, c'est le jour rend hommage à tous les Australiens qui ont servi ou sont décédés en temps de guerre lors des conflits ou dans le cadre de missions de maintien de la paix. Enfin, cette journée permet de célébrer l'esprit d'Anzac et les idéaux qu'il véhicule, à savoir le courage, la camaraderie et le sacrifice.
Qu'est-ce que la bataille de Gallipoli ?
Pour l'Australie, c'est une bataille qui représente la fondation de notre nation indépendante parce qu'il y a 8000 Australiens soldats qui sont perdus là. Ça représente des choses assez importantes pour le nationalisme.
Le consul honoraire d'Australie, Mark Sewell, l'inspecteur de la police fédérale australienne ainsi que plusieurs descendants des deux soldats seront présents à Tahiti. Ils participeront cette année aux différents événements organisés en collaboration avec le Rotary Club de Papeete. Cathy Gourbeau-Laurence, sa présidente, nous détaille le programme à venir.
Nous avons une exposition qui est bilingue, donc excellent pour les scolaires et pour les personnes qui veulent avoir le côté mémoire, mais qui veulent surtout connaître ce qu'a été Gallipoli et ce que sont les Anzac et ce qu'est la légende Anzac. En parallèle à cette exposition, il va y avoir le vendredi 24 une projection débat, un superbe film de 1981 qui montre une très belle page d'histoire. Samedi, il y a les commémorations militaires à 8h30 au cimetière de l'Uranie. Cela va revêtir un caractère très particulier, avec notamment la section cuivre du conservatoire, avec une école qui va venir chanter, et puis bien sûr avec le dépôt de gerbes et la présence de la famille qui donnera vraiment un caractère très touchant.
Vous venez de l'entendre, l'exposition Anzac Day et Papeete, mémoire de la Première Guerre mondiale, sera en accès libre à la mairie de la commune jusqu'au 30 avril. Deux projections débats gratuites autour du film Gallipoli avec Mel Gibson auront également lieu. Ce sera le 24 avril au cinéma Liberty, l'une à 8h30 pour les scolaires et l'autre à 17h pour le public, dans la limite des places disponibles.
Et on termine avec du sport, du futsal et les Aitonui qui se disent prêts à défier la France.
C'est le moment de vérité ce soir pour les deux équipes qui disputeront ce match amical au stade de la Fatawa. Les deux staffs ont tenu une conférence de presse hier à la Fédération Tahitienne de Football. Vivier de l'équipe de France A, la jeune équipe espoir des moins de 21 ans est prometteuse. Première équipe européenne de futsal à venir jouer au Fénoua. Elle a essuyé quelques défaites récemment mais reste sur de petites victoires et en progrès constant. C'est ce qu'a expliqué le coach français Raphaël Reynaud. Malgré tout, loin de lui l'idée d'arriver en terrain conquis. Il attend de voir le niveau de la rencontre de ce soir pour appréhender les Tahitiens.
J'ai juste des informations comme quoi c'est une équipe très intéressante, voilà, et qui sera très difficile à jouer puisque tout le monde nous met en garde et nous dit qu'on va tomber sur une équipe de valeur. Donc voilà, je me méfie et on va être très vigilant au premier match. On a 4 jours pour analyser la première rencontre pour pouvoir après derrière là avoir une vraie idée et puis jouer aussi en fonction de l'adversaire la deuxième. Alors mes joueurs, si vous voulez, on a un groupe qui aujourd'hui est un groupe où il n'y a pas de vraies vedettes comme on a pu avoir dans le passé. Par contre, c'est un niveau homogène et puis c'est des joueurs qui se mettent tous au service de l'équipe et du projet jeu. Avec l'équipe potentiellement la plus faible, on atteint paradoxalement notre meilleur niveau en termes d'équipe.
Pour Eipat Wanter, l'enjeu est clair, jouer une grande nation de futsal. Il faut dire que cette rencontre est capitale pour nos Aito Nui, la prépare depuis de longs mois maintenant, avant les matchs qualificatifs de la zone Océanie pour la Coupe du Monde de l'an prochain. Tout comme Raphaël Reynaud, le coach tahitien concède que le niveau de l'adversaire reste encore flou, mais il veut rester confiant.
L'objectif déjà, c'est de jouer un grand pays, hein, qui nous manque en Polynésie, c'est de jouer ces pays-là. À chaque fois, on a des adversaires qu'on domine trop facilement. Maintenant, par rapport au résultat là, qui vient de dire contre le Portugal 3-2, l'Ukraine 4-2, c'est des grands pays, des grandes nations de futsal. Ça me fait un peu peur, mais content en même temps, puisque comme ça, on tombe sur un vraiment gros adversaire. Mais nous, on est des compétiteurs et 150 000 spectateurs de la Polynésie vont regarder le match. On n'a pas envie de perdre ce match-là aussi. Donc on va tout faire pour se battre comme des Eito, hein, c'est le nom de notre équipe. Hein. La difficulté de ce match, c'est qu'on ne connaît pas du tout notre adversaire. Donc après 5 ou 10 minutes de jeu, on va commencer à les connaître. Donc c'est vraiment une surprise. Après, je pense qu'il ne faut pas qu'on doute de notre jeu. Je pense qu'on est prêt et on est au sommet de notre préparation. Donc après, le match va nous dire qui va gagner, mais on ne pourra pas faire mieux de ce qu'on a fait depuis 6 mois déjà. Donc je suis content des joueurs. On est en forme physiquement. Tactiquement, on est prêt. Après, l'adversaire peut être plus fort que nous, mais on va donner tout ce qu'on sait faire, ça c'est sûr.
Le match est à suivre en direct sur l'antenne de TNTV à 19h depuis le stade de la Fatawa. Une deuxième rencontre est prévue samedi à 16h.